Bonjour à tous, donc bienvenue sur l'émission Équilibre sur Radion. Nous sommes en présence aujourd'hui de Saskia qui est notre première invitée sur cette émission.
Je suis venue en puiser parce que j'ai trouvé un terrain pas loin de Toussy et je me suis installée avec l'argent que j'avais mis de côté de mon licenciement et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bonnes idées. Et maintenant, ça commence à tourner. Ce
qui m'intéresse, c'est donc que tu as commencé à monter à cheval à quel âge ?
4 ans, c'était la voltige parce que financièrement, ce n'était pas possible de monter à cheval. Et à 9-10 ans, j'ai commencé à monter à cheval.
Et alors, tu faisais du cheval juste quoi, en balade ?
Non, je faisais du cheval dans un centre équestre. Mon père était dans un centre équestre où il faisait le journal aussi. Et là, j'ai pu monter, financé par les CE, ça nous a coûté pas cher. Et là, je pouvais monter, mais que sur des grands chevaux. Et c'était l'équitation classique allemande, en manège, on tournait en rond. Et c'est beaucoup plus tard qu'en France que j'ai commencé à découvrir l'endurance, le trek. Et l'équitation d'extérieur, c'est ça qui me passionne aujourd'hui, même si je travaille aussi les chevaux pour le dressage, mais c'est surtout l'extérieur.
Et en Allemagne, est-ce que c'est comme en France, on passe des galops
Non, c'est pas des galops, nous on a ce qu'on appelle le Reiterabzeichen, c'est... il y a argent, bronze, or, comme ici. Avant, il y avait aussi ces couleurs-là. Mais peut-être, entre-temps, ça a changé aussi en Allemagne. Mais à l'époque, c'était plutôt des examens comme ça.
Oui, parce qu'on fallait quand même évoluer. Puis peut-être, pour avoir le droit d'aller en compétition, il fallait peut-être passer justement ces examens.
En Allemagne, non. Pour faire des petites compétitions de club, on n'a pas besoin de passer des examens. C'est plus tard en France que j'ai passé mes galops et que j'ai passé le monitorat aussi.
Quand tu es arrivé en France, tu avais 20 ans, c'est ça que tu m'as dit ?
Oui, 21 ans. Oui.
21 ans. Et là, tu t'es mis à passer tes galops à cet âge-là, alors ?
Au début, non. Je crois que j'ai commencé à passer les galops à 30 ans parce que j'ai vu que c'était important. Pour faire la formation du monitorat, de toute façon, il fallait avoir un galop. Je crois que c'était le galop 6. Du coup, j'ai passé les galops 6. Et après, j'ai passé le monitorat. J'ai passé la TE aussi, qui est accompagnateur tourisme équestre.
Qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui.
Oui, très peu.
Non, mais c'est un examen qui...
Oui, qui permet de s'installer. Voilà. Et comme j'ai le monitorat, je n'avais pas vraiment besoin de ça. Au début, j'étais en Corse, je ne parlais pas le français. Du coup, j'ai décidé d'apprendre le français parce que c'était tellement frustrant de faire les GR20 sans pouvoir parler un mot. Et j'ai appris le français en Allemagne. Et pour le pratiquer un peu plus, j'ai demandé à la société où je travaillais à côté de mes études de m'envoyer en France. J'ai rencontré un français et après mes études, je me suis installée en France. Et depuis, je suis restée en France.
Donc, quand tu es arrivée en France, tu as été plus particulièrement sur Paris, c'est ce que tu nous as dit ?
Oui, 77 et la région parisienne, oui. D'accord. Parce que c'est quand même là où il y a le travail quand on est commercial.
Et là, toujours passionnée par l'équitation, tu décides de monter en France ?
Oui, j'ai continué dans mon loisir de monter à cheval, mais c'est resté toujours juste le loisir.
Juste le loisir. Et subitement, au fur et à mesure que tu progresses dans l'équitation et que tu découvres des façons différentes de monter à cheval par des épreuves aussi, il y a le CSO comme tout le monde connaît, il y a les courses au PMU, il y a le trek, il y a l'endurance, il y a la randonnée. Toi, tu as été attiré plus particulièrement par ?
J'étais surtout attiré par l'éducation des chevaux. Là, j'ai rencontré Pierre Blin et... la façon comme il travaille, c'était très différent de ce que j'avais appris. Et petit à petit, j'ai travaillé avec lui, j'ai appris comment il travaille. Et ça a beaucoup bouleversé la façon de voir les chevaux, de comprendre les chevaux autrement, de ne pas juste dire ah, « ce cheval-là, il est stupide, il est dangereux », mais comprendre pourquoi il ne veut pas apprendre, pourquoi il mord, pourquoi il attaque les gens ou...
D'accord. Plutôt aller plus loin. Alors, Pierre Blin, explique-nous qui c'est ce monsieur, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être ton maître.
Oui, c'est mon maître au niveau éducation des chevaux. C'est un fils de marchand chevaux qui a commencé très petit à monter à cheval parce que son père l'obligeait de chercher des chevaux à droite et à gauche. Et au lieu d'aller à pied, il est monté, même si son père lui interdisait. Après, il était entraîneur dans le trot. Il a entraîné un grand nombre de chevaux. Il était jockey lui-même, driver. Et il a observé les chevaux, mais aussi les hommes. Pourquoi celui-là il arrive, pourquoi celui-là il n'arrive pas. Et il se fait petit à petit une technique qui ressemble un peu à ceux qui font ce qu'on appelle les chouchouteurs, mais qui est quand même différente. Et quand beaucoup n'arrivent pas, lui il arrive toujours en très peu de temps. Et c'était fascinant de voir comment il travaille et j'ai pu apprendre avec lui.
Il est situé à quel endroit, Pierre ?
Lui, il est à Compiègne.
Donc vraiment dans le milieu du cheval,
oui.
Effectivement, c'est à Compiègne, c'est dans l'Oise.
C'est dans l'Oise, oui.
Et donc, je présume que tu es toujours en contact avec Pierre ?
Oui, aujourd'hui, quand j'ai un problème avec un cheval et j'arrive pas ou j'ai des doutes, je l'appelle. Il me dit, est-ce que tu as fait ça ? Il m'aide toujours et il est toujours là si je ne sais pas comment continuer.
Sans indiscrétion, tu l'as rencontré comment, ce monsieur ? Parce que...
Je l'ai rencontré lors d'une assemblée d'une association où on est membres tous les deux. C'est une association de cavaliers Lancourt, parce que j'ai fait un grand voyage à cheval en Argentine, seul avec deux chevaux. Pour ça, je suis dans cette association où on échange un peu les vécus qu'on a eus pendant le voyage à cheval. Voyage, ça ne veut pas dire randonnée. Voyage, ça veut vraiment dire plus que 6 mois dans un pays autre que le mien, sans assistance, sans aide. Son voiture suiveuse, etc. Et Pierre est aussi dans cette association et on s'est rencontrés là. D'abord, j'ai surtout discuté avec sa femme qui dit « Mais viens nous voir !» Elle poussait que je passe et après, j'étais vraiment comme un enfant en plus chez eux.
C'est très intéressant ce que tu nous expliques, c'est que tu es partie 6 mois avec un cheval toute seule en Argentine.
J'ai acheté 2 chevaux dans le sud de l'Argentine, en Patagonie, et j'ai fait 3000 km en Patagonie à cheval, avec un cheval de monte, un cheval de bas, seul. Ouais.
Il y a combien de temps ?
C'était en 2001-2002.
2001-2002, donc ouais, tu avais déjà une expérience acquise avec Pierre
Non, ça c'était avant de travailler avec Pierre. Avant le voyage, je me suis préparée, j'ai appris la maréchalerie, j'ai fait un stage dans la clinique vétérinaire pour apprendre le plus important. J'ai appris l'espagnol. Que j'avais pris à l'école, mais que j'avais tout oublié. Et je suis partie là-bas pour faire un voyage à cheval.
Écoute, Saskia, on va faire une petite pause musicale et on va revenir sur cette expérience parce que je crois que ça, c'est gonflé quand même. Allez, à tout de suite, merci. Bonjour à tous, bienvenue sur Radion, l'émission L'Équilibre, la première mais très enrichissante avec Saskia. Bonjour Saskia, je voulais revenir sur une expérience, je trouve assez folle quoi, t'es une aventurière en fait, t'as peur de rien, tu décides à 30 ans parce que tu aimes les chevaux, t'aimes apparemment les pays, t'aimes partir à l'aventure, tu es partie en Argentine. Explique-nous un petit peu cette expérience, comment ça t'est venu, comment il a fallu organiser ça?
Bah, je suis peut-être aventurière, mais en même temps, je suis quelqu'un qui a besoin de bien préparer les choses pour être bien. Du coup, j'ai bien préparé mon voyage, j'ai bien fignolé mon matériel, j'ai essayé mon matériel avant. Je me suis préparée techniquement pour apprendre des techniques du voyage à cheval, la maréchalerie, tout ce qui est vétérinaire. Je suis allée là-bas acheter 2 chevaux et au fur et à mesure, on apprend sur le voyage aussi. On rencontre des gens, on fait des erreurs, des chemins, on se retrouve. Et...
On vit chez l'habitant alors ?
J'avais ma tante, j'avais 10 jours de nourriture, j'étais indépendante pendant 10 jours parce que l'eau on trouve toujours partout, dans la cordillère, j'étais proche de la cordillère. Et souvent quand même, tous les 2-3 jours, j'étais proche d'une ferme. Et mes fermes, ça veut dire beaucoup de moutons dans le sud de la Patagonie. Et un gaucho qui s'occupe de tout ça, 2 fois 2. Mais des fois, je m'arrêtais dans des fermes je mettais ma tente ou je dormais dans une grange.
Mais alors, moi, ce que je trouve assez gonflé, c'est que tu as été acheter tes chevaux sur place. Tu prenais un peu un risque, quoi. Tu aurais pu t'acheter, excuse-moi du terme, mais des chevaux avec des problèmes, quoi.
J'étais quand même cavalière depuis longtemps, je connaissais les chevaux déjà, même si je les connaissais moins qu'aujourd'hui, mais j'ai bien pris mon temps à choisir les chevaux. J'étais dans une ferme où j'ai essayé beaucoup de chevaux qui avaient des pieds en très mauvais état, et même si je n'étais pas maréchale, j'ai quand même un œil. J'étais dans une autre ferme, et finalement j'ai eu la chance aussi de trouver deux très bons chevaux. Après, oui, il faut connaître un peu les dents du cheval pour savoir quand on ne te vend pas un cheval de 25 ans pour un qui a 5 ans. Et tu regardes un peu l'état, tu vois qu'il ne boite pas. Après, tu peux toujours avoir une mésaventure, que le meilleur cheval, il peut avoir un accident ou une maladie qu'on ne voyait pas au début.
Oui, mais là, tu avais décidé d'acheter des chevaux pour faire quand même pas mal de kilomètres. Tu m'as dit combien de kilomètres ?
3000 kilomètres, oui. J'ai acheté 2 chevaux assez jeunes.
Qui étaient déjà élevés ensemble, qui se connaissaient ?
Ils se connaissaient, ça c'était mon avantage, parce que si je tenais un cheval, l'autre partait jamais.
Oui.
Presque jamais. S'il y a un joli troupeau qui vient, des fois la jument de bas, elle partait avec les caisses de bas pour suivre le troupeau. Mais bon, elle revenait quand même vers sa jument, l'autre jument qu'elle connaissait bien.
Tu peux nous parler donc des races là-bas, une race particulière
C'est les chevals criollo, Mais quand on est à la campagne comme ça, on a beaucoup de mélanges aussi. Parce qu'à un moment, ils ont mélangé avec des chevaux pour avoir des chevaux plus costauds ou plus rapides. Mais les miens étaient de race criollo. L'avantage des criollos qui grandissent dans le sud, c'est qu'ils sont très, très costauds, très, très rustiques. Ils vivent il y a beaucoup de neige dans le sud, ils vivent de peu et on n'a pas besoin de les nourrir pendant le voyage.
C'est des chevaux de petite taille,
grandis. C'est des chevaux qui font pas plus qu'un 45, un 50, qu'ils ont construit dans un carré. C'est des chevaux pas très longs, pas très hauts sur pattes. C'est vraiment, on peut dire que c'est
comme le fjord un petit peu.
Comme le fjord, mais moins lourd.
Moins lourd,
ou
d'accord.
Plus léger, parce que le fjord.
Plus
est
dans
lourd.
Le sang.
Plus dans le sang, quand même.
D'accord, oui, d'accord. De caractère, c'est comment?
Des caractères, ça dépend lesquels on a, mais les miens étaient vraiment des crèmes. Ça peut être un peu têtu, parce que c'est comme beaucoup de chevaux rustiques, mais non, c'était vraiment des crèmes.
Tu dis, j'ai appris la maréchalerie, donc c'est-à-dire que t'es partie là-bas, tu savais ferrer un cheval toute seule
Oui, je savais surtout dépanner, remettre des clous, parce que ferrer, c'est quand même un métier.
Ouais.
Et j'ai toujours trouvé un gaucho ou quelqu'un dans une ferme qui pouvait me referrer. Moi, j'ai bricolé entre deux ferrages quand ça s'abîmait. Je remettais des clous pour tenir le ferrage, les fers. Mais j'ai trouvé toujours quelqu'un qui me ferrait les chevaux et j'avais toujours un jeu de fer avec moi.
En général, ça faisait combien de kilomètres par jour?
Ça fait... ma plus grosse journée, c'était 65 kilomètres et la plus petite, c'était 1 parce que j'étais juste allée chez les voisins.
Tu es une aventurière, mais effectivement, comme tu nous l'as dit, relativement cartésienne. Tout est bien calculé dans ce que tu fais. Tu veux bien aller voir du pays, mais tu pars pas non plus, t'es pas inconsciente. Et dans le milieu de l'équitation, tu as, par le biais d'une association que tu nous expliquais tout à l'heure, eu la chance de rencontrer Pierre Blin. Pierre Blin, alors tu nous expliquais que c'est quelqu'un qui t'a permis d'avoir une vision sur l'équitation et surtout un regard sur le cheval et sur l'homme avec à cheval. Peut-être pas différente, mais peut-être, je dirais, qu'il t'a interpellé dans ce domaine. Et au jour d'aujourd'hui, ce que tu es, tu le dois un petit peu à lui. Et parce que je crois que tu as passé quelques années en sa présence, il t'a appris ce qu'il savait. Donc on disait un petit peu, on parlait de chuchoteur, hein, c'est ça?
Oui.
Donc on peut rappeler rafraîchir la mémoire aux gens. Vous avez tous vu le fameux film avec Robert Redford, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est ça? Alors est-ce que c'est ça, Pierre Blin?
Non, comme raccourci, j'utilise ce mot parce que... de cette façon, on voit que c'est pas l'éducation des chevaux classique et le film, tout le monde connaît, ou presque tout le monde connaît le film. Pierre Blin, c'est pas du tout ça. Il a pas de chapeau cowboy et il se la joue pas. Non, et c'est plutôt quelqu'un très modeste, mais qui a une connaissance des chevaux, qui a un œil. Il voit un cheval marcher, il voit déjà qu'à l'intérieur gauche, il y a une radio à faire. Et la radio, elle prouve qu'il y a une ossification ou quelque chose. Il a un œil incroyable, des choses que beaucoup de vétos voient seulement après la radio. Et en même temps, il a une façon de travailler avec les chevaux qui fait que les chevaux apprennent plus vite et apprennent surtout ce qu'on veut et désapprennent.
Alors lui, au jour d'aujourd'hui, donc, si j'ai bien compris, il était driver et donc il a travaillé dans le milieu des courses, alors des trotteurs.
Oui.
Et au jour d'aujourd'hui, il fait quoi? Il est uniquement... il a un centre...
Non, aujourd'hui, il est éducateur équin. Mais oui, il est éducateur équin. Il s'occupe de chevaux compliqués qui ont dites difficiles.
Donc il s'est fait une réputation de quelqu'un qui peut réussir à remettre bien un cheval plus dans sa tête, en fait.
Oui, oui.
Voilà. Et éventuellement, comme tu nous le dis, remarque que si des fois il ne va pas bien dans sa tête, c'est parce que peut-être physiquement il y a des soucis et on ne s'en est pas rendu compte et que c'est peut-être ça qui lui fait mal et qui le fait un peu disjoncter, je dirais.
Oui, parce que des fois, un problème comportemental est lié à quelque chose de physique. Et aujourd'hui...
Moi, je le vois bien. Quand ma femme me frappe, je suis quand même moins sympa.
Tu es moins concentré.
Voilà, voilà,
oui.
Tout à fait.
ou un môme à l'école, quand il a la migraine, il a plus de mal à apprendre les maths. Et un cheval... beaucoup de choses sont aussi un problème de comportement, qui n'est pas seulement forcément lié à un problème physique. Mais des fois, il y a des comportements, un cheval qui mord, un cheval qui jette les cavaliers. Des fois, ça peut être un problème au dos, ça peut être un problème aux dents, ça peut être un problème dans les aplombs, un problème de maréchalerie, ça peut être des problèmes physiques divers. ça c'est des cas de temps en temps, mais c'est surtout les maladresses des gens. On fait des erreurs avec les chevaux, et avec beaucoup de chevaux ça va très bien, mais il y a certains chevaux plus sensibles où quand on fait une maladresse, ils apprennent quelque chose qu'on ne veut pas. Et un cheval qui se cabre tout le temps, c'est qu'un jour par hasard, il s'est cabré à un moment que je lui demandais quelque chose. Il a appris, ah, quand je me cabre, c'est la faille, on me laisse tranquille. Et après, on dit, ah, le cheval, il est dangereux, il veut me tuer. Et en vérité, c'est juste qu'il a trouvé cet échappatoire. Et j'ai dit bien, il a appris. Je n'ai pas dit, il a compris. En fait, c'est un apprentissage. On fait quelque chose, le cheval réagit. Il voit que c'est la solution et c'est un apprentissage. Et après, le travail que j'ai appris, c'est en fait d'enlever cet apprentissage, de montrer au cheval, quand tu te cabres, ce n'est pas la solution. Il faut plutôt rester les pieds sur la terre.
En fait, lui expliquer qu'il y a certains symboles qu'il faut oublier.
Oui, je vais lui rendre la situation que je ne veux pas inconfortable. Ça veut dire, quand il se cabre, je vais faire en sorte que c'est désagréable pour lui. Désagréable, ça ne veut pas dire que je vais les frapper, parce que ça, c'est hors de question. Je ne vais pas rentrer dans un rapport de force. Avec les chevaux, même avec un petit Shetland ou un poulain Shetland, où j'ai peut-être encore plus de force sur certains facteurs, avec les chevaux, ça n'a aucun sens de rentrer dans un rapport de force.
D'accord. Comment il a fait sa réputation, Pierre Blin, par rapport à ça? Parce que bon, moi, ce que je trouve assez atypique, c'est que tu me dis qu'il est fils de marchand de chevaux, donc ce qu'on appelait le maquignon dans le temps, quoi. Souvent, ils n'avaient pas toujours une bonne image, les maquignons. C'était vraiment. Le cheval était du bétail, c'était pas.
Oui, on a aujourd'hui, bien sûr, on a toujours ces clichés des maquignons, mais il y a des marchands de chevaux qui sont pas forcément mauvais. Mon père était employé de bureau, et moi aujourd'hui, je travaille les chevaux. Je veux dire, on n'est pas toujours ce qui fait les pères.
Oui, oui. Pierre Blin, c'est du fait qu'il a eu beaucoup d'expérience avec son père qu'il en a eu envie à un moment donné de s'intéresser plus au problème du cheval?
Je pense qu'il a une grande sensibilité et pour les chevaux. Il va voir des choses sur des chevaux que d'autres ne voient pas. Et cette sensibilité a fait qu'aujourd'hui, il réussit avec des chevaux et il arrive à sauver des chevaux de mauvais traitements et les remettre dans le circuit que d'autres n'arrivent pas.
Ok, on va faire une petite pause musicale et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. J'attends de toi que tu nous expliques les expériences que tu as vécues justement avec des chevaux à problème. Saskia, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de nous expliquer les expériences que tu as rencontrées donc lorsque tu étais, je le cite encore, mais effectivement, on est là pour parler de toi, mais tu as vécu toutes ces expériences quand même avec ce monsieur au niveau, je dirais, équilibre. J'ai envie de reparler du titre de l'émission. Est-ce que tu peux nous parler d'expériences que tu as vécues avec des chevaux à problème, justement?
Oui, il y a beaucoup d'expériences. C'est toujours une super reconnaissance quand on a un cheval qui arrive. Le propriétaire, il est désespéré parce qu'il n'arrive plus à monter dessus. Le cheval, il part comme un fou au galop. Il jette tous les cavaliers. Et le cheval est irrespectueux. Et le cavalier, il arrive chez moi. Et je commence à travailler le cheval d'abord à pied, après en longue reine. Après, je monte la première fois dessus. Après un travail intensif, je monte le cheval comme un cheval normal à l'extérieur. Je peux partir au galop sans qu'il m'embarque. Et c'est magnifique, cette reconnaissance qu'on trouve. Bien sûr, ça fait plaisir que les cavaliers soient contents, mais surtout de voir ce cheval qui était traumatisé avant, qui avait peur de tout et qui petit à petit retrouve confiance dans le cavalier et dans la vie avec les hommes.
Donne-nous l'expérience d'un cheval que tu...
Ah, par exemple, un cheval, il y avait un cheval à l'écurie, on rentre dans la pâture, il fonce sur nous pour nous attaquer. Et là, Pierre m'a appris que là, il ne faut surtout pas reculer. Il faut avancer pour lui montrer qu'on ne se laisse pas intimider. Et on dit toujours que les chevaux, ils sont notre adrénaline. Mais là, en fait, les chevaux, ils ne sont pas l'adrénaline. Ils voient le mouvement que je fais. Et adrénaline ou pas, je peux avoir peur. Je peux avoir peur. Si je fais le bon geste, que j'avance vers le cheval, il apprend qu'on ne peut pas foncer sur tout le cavalier.
Alors, le cheval, c'est quoi? Un étalon?
Non, c'est une jument.
C'était une jument. Donc là, en plus, on ne peut pas lui casser le caractère par une castration, parce que voilà, quoi. Donc là, la jument, alors on n'a pas d'explication. Elle a pris l'habitude de foncer sur les gens quand elle est dans un pâturage, quoi.
Oui, elle a pris l'habitude. Elle était dans un jardin. La maison était vendue. Et les propriétaires, ils n'ont jamais enlevé la jument. Et les nouveaux acheteurs, ils ont appelé pour voir est-ce qu'on peut aider. On a été pour attraper la jument, parce qu'en même temps, elle était inattrapable, pour l'attraper et pour lui apprendre de plus foncer sur les gens. Et elle a dû apprendre ça comme une protection, comme une peur, parce que les gens essayaient de l'attraper et personne n'arrivait à l'attraper. Et un jour, elle a appris, elle fonçait sur les gens, les oreilles couchées, la bouche ouverte, et tout le monde sortait en courant de la pâture.
Donc en fait, il y a toujours une explication à un problème de comportement chez un cheval, alors.
Je pense qu'il y a toujours une explication, mais des fois, on ne sait pas l'explication, on ne va pas la trouver. Mais on peut quand même enlever le problème.
D'accord. Après cette expérience, ces expériences acquises chez Pierre Blin, tu es arrivé à Fontaine, à côté de Toussy, pour mettre en place, je dirais, un haras où tu fais naître aussi des chevaux, je crois.
Oui, j'ai fait quelques naissances. On va avoir 2 poulains cette année et certainement 4 l'année prochaine.
Des races particulières ?
Cette année, c'était une criollo. Et un cheval d'Argentine. Cette année, ça va être 2 arabes pour faire l'endurance.
On peut expliquer un petit peu l'accueil. Qu'est-ce que tu y fais dans ce haras ?
J'ai plusieurs fers dans le feu. D'un côté, je donne des formations aux cavaliers qui ont envie d'apprendre comment mieux vivre avec leur cheval, avoir plus de complicité et aussi plus de sécurité, parce que beaucoup d'accidents arrivent aussi par erreur, par méconnaissance. De l'autre côté, je éduque les chevaux. Pour des petits problèmes, un cheval qui monte plus dans un vent, un cheval qui donne plus ses pieds ou qui n'a jamais donné les pieds, un cheval qui bouge quand on veut monter dessus, un cheval qui embarque, ça veut dire qu'il ne s'arrête pas quand on lui demande de freiner. Et de l'autre côté, je fais aussi du débourrage ou du redébourrage. Un cheval qui a été débourré quelque part, mais qui ne fait pas bien son travail.
On peut expliquer débourrage parce que tout le monde ne connaît pas.
D'accord, débourrage, c'est la première fois qu'on met la selle sur un cheval et qu'on apprend à un cheval d'accepter le cavalier, d'être aux 3 allures, ça veut dire pas trop et galop, sans précipitation, qu'on puisse sortir avec un cheval seul. Ça, c'est la première éducation dans la vie d'un cheval, ça s'appelle débourrage. Et des fois, quand le débourrage a été loupé ou mal fait, ça arrive. Des fois, les gens essayent eux-mêmes de faire le débourrage et ça se passe pas aussi bien qu'ils veulent. Et là, je vais faire un redébourrage, ça veut dire que je vais recommencer à éduquer le cheval.
Et ça prend combien de temps ?
Ça dépend, mais normalement, pour un redébourrage, souvent c'est compliqué parce que le cheval, on a loupé des choses. Je vais prendre un mois.
Un mois, ouais, d'accord.
Mais pour des petites choses comme un cheval qui ne monte pas dans le vent ou qui mord quand on le sangle ou qui lève la tête quand on veut le brider, mettre à la bride le mort, là, c'est souvent juste 2-3-4 jours. Ça dépend de la gravité.
Ça, c'est ce que tu fais donc dans ton haras, mais tu ne fais pas que ça aussi. Tu fais aussi, tu organises des balades.
Je donne des cours particuliers. Je ne me considère pas comme un centre équestre. Ça, c'est un autre métier. On a des cours à plusieurs. Il y a l'ambiance aussi du groupe. On rencontre du monde. Je donne juste des cours particuliers, surtout pour des adultes ou des enfants qui ne trouvent pas leur place dans le centre équestre parce qu'ils n'aiment pas la pédagogie de groupe, ou des gens qui ont eu un accident qui veulent retrouver la confiance. J'ai eu un accident avec mon cheval, je viens chez Askia, je vais travailler le cheval, que le cheval aille mieux, parce que des fois, quand quelqu'un a eu un accident avec un cheval, le cheval il a fait peut-être aussi une petite bêtise. Et après, je travaille avec le cavalier, que le cavalier retrouve confiance dans son cheval aussi. Et là, je donne des cours particuliers. Et des fois, je fais des petites randonnées avec des clients qui ont envie de faire une petite randonnée. Mais c'est surtout dans le cadre de retrouver la confiance avec son cheval.
D'accord. Saskia, on va faire une petite pause musicale et justement, tu vas nous expliquer de quelle manière on te trouve dans la région et comment il faut faire pour pouvoir profiter de ton expérience en venant chez toi. À tout de suite. Merci beaucoup. Je voudrais terminer cette émission sur le haras de Fontaine. Déjà, c'est pas très facile à trouver, le haras de Fontaine. C'est à côté de Toussy, mais bon, comment on le trouve, quoi ?
Oh, c'est assez facile. De Fontaine, on prend direction de la Lande et après le haras de Fontaine, il est indiqué. Sinon, j'ai un site et là, oui. Il y a la description de chemin dessus. www.zaskiacheval. Et Zaskia, c'est avec S, même si on le prononce avec un Z, zaskiacheval.com. Et sinon, sur le site, il y a aussi mon numéro de téléphone. On peut m'appeler quand on est perdu. Je peux auto-guider ou téléguider. Et c'est pas loin de Toussy, du coup, c'est pas si difficile que ça à trouver.
On rappelle donc que c'est un hara, ce n'est pas un centre équestre qui va avoir planifié des... Je dirais des cours à la semaine, c'est pas organisé comme ça, toi?
Non, les cours sont au fur et à mesure, je donne des rendez-vous aux personnes qui veulent prendre des cours, mais les stages sont programmés. Là, il y en a un en avril, mais il est déjà complet. Et le prochain, c'est début juin, le premier week-end de juin.
Alors, au niveau des stages, est-ce que c'est des stages à thème ou des bien particuliers?
Oui, les prochains stages en juin, c'est sécurité et complicité avec les chevaux. Et on peut venir avec ou sans cheval, et il n'y a pas de niveau demandé. On peut être galop 7 ou moniteur, et on peut aussi être néophyte, rien connaître des chevaux et juste avoir envie de connaître les chevaux. Parce que le stage, il est adapté à tout le monde, et même pour un galop 7, ça veut dire quelqu'un qui a déjà un super niveau d'équitation, ce qu'il apprend chez moi, c'est différent. Du coup, il n'est pas forcément... il est peut-être même plus démuni avec cette nouvelle méthode face au cheval qu'un débutant, qui est encore plus vierge, entre guillemets.
On rappelle bien que bon, même si ce n'est pas un centre équestre, tu as ton monitorat.
Oui, j'ai...
Donc, c'est vraiment un encadrement professionnel. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez toi ont affaire à une éducatrice équestre, en fait. Hein, avec c'est assuré, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas comme si on va monter chez le voisin qui a un cheval. Quoi.
Non, c'est, même si je ne fais pas centre équestre comme les centres équestres, parce que c'est un autre métier, j'ai les diplômes, j'ai les assurances, j'ai la structure pour. C'est juste qu'on ne fait pas des cours à l'heure en groupe, comme un centre équestre.
Tu as des gens qui peuvent venir de loin? Comment ça se passe si moi je veux venir? J'allais, je dis n'importe quoi, allez, je viens à Dijon.
Oui, j'ai souvent du monde, des gens de Mulhouse, de Marseille, soit pour me ramener leur cheval, soit pour les stages, ou les deux. Et il y a des chambres d'hôtes pas loin, et les gens peuvent dormir sur place et rester.
Et toi, tu peux héberger le cheval?
Moi, j'héberge le cheval, bien sûr. J'ai fait la pension aussi pour chevaux. Et surtout pour le stage, les gens viennent avec leur cheval. Le cheval reste en paddock pendant le week-end de stage. Ou quand le cheval reste pour travailler, pour que je les travaille, bien sûr, il reste sur place. Il est soigné, il est hébergé. C'est juste les humains qui vont dans les chambres d'hôtes.
Qui vont dans les chambres d'hôtes. Je crois aussi que tu fais aussi pension pour chevaux en retraite aussi.
Oui, pensions de tout genre, les poulains, les chevaux où les gens viennent pour les monter, et chevaux à la retraite, oui.
Ça représente beaucoup d'hectares, le domaine?
Nous, on a 26 hectares, et les chevaux qui restent juste une semaine au travail, ils vont rester en paddock, mais un cheval qui vient en pension, il va être dans le troupeau, ce qui est très bénéfique surtout pour des jeunes chevaux. Et pour les retraités aussi, c'est agréable pour eux quand même d'être dans le contexte d'un troupeau. Mais si un cheval reste juste quelques jours, je ne veux pas les mettre dans le troupeau parce que c'est toujours une source de querelle quand même au début. Il faut qu'ils fassent leur hiérarchie.
Pour terminer l'émission, je voudrais que tu nous parles vite fait aussi, parce qu'on parle du particulier, on parle éventuellement du problème du cheval ou de la complicité qu'il n'y a pas entre un cheval et un cavalier. Il y a aussi des choses que tu organises pour les entreprises aussi. Des entreprises qui peuvent faire appel à toi pour découvrir justement cette particularité du cheval avec l'homme, quoi.
Oui, ça c'est un domaine complètement différent. Je travaille ensemble avec une coach qui travaille depuis longtemps avec des grosses entreprises en CAC 40 et aussi des petites. Et on fait des séminaires de horse coaching. Ça veut dire on met l'équipe des dirigeants ou le dirigeant seul en face du cheval et le cheval réagit comme un miroir. Au lieu d'essayer théoriquement de solutionner le problème que j'ai dans mon entreprise, je travaille avec le cheval et le cheval va me dire, entre guillemets, par sa réaction, parce que le cheval est un spécialiste de la communication non verbale, par sa réaction, il va me mettre en face de mon problème avec l'entreprise. Et après, avec l'aide du coach et ma vision du cheval, parce que moi je vois des choses par rapport au cheval, on peut aider à la personne ou à l'équipe d'améliorer soit la cohésion d'équipe, soit la confiance dans l'équipe.
Mais ça, c'est pas commun comme expérience. Ça se fait ailleurs qu'en France ou...
Oui, moi, j'ai fait une formation pour ça en Allemagne, mais ça existe aussi en France. Ça commence à s'épandre de plus en plus. Non, c'est pas commun. L'avantage de cette expérience, c'est que qu'on bouge dans l'équipe, ce qu'on bouge dans les entreprises, ça reste dans la durée. C'est pas juste un séminaire où on dit « Super, on rentre le classeur, on le met dans le placard et on regarde plus jamais. » C'est quelque chose qui... comme on travaille dans le ventre, dans le sentiment, dans les tripes, c'est quelque chose qui reste dans la durée et qui peut bouger des choses dans l'entreprise. Là, on a eu un séminaire avec une société de sécurité d'informatique. Le chef, le patron, il disait, mais il y aura quelques têtes qui auraient roulé si on n'aurait pas fait ce séminaire. Ça bougeait des choses dans l'équipe, c'était impressionnant.
Ça porte ses fruits, alors?
Oui, c'est impressionnant.
C'est-à-dire que grâce à ça, ça permet éventuellement aux dirigeants de se remettre en question, de se rendre compte que peut-être que la manière qu'il a appliquée n'est pas spécialement la bonne, qu'il y a un souci de communication à l'intérieur de son entreprise. Et ça, il va s'en être rendu compte en étant face à un cheval, en fait.
Oui. C'est grâce au cheval qui est, et grâce aux questions du coach aussi, c'est pas le cheval qui... Mais oui. Le cheval, il parle par son comportement.
Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est hyper intéressant de se rendre compte... Ouais, c'est une maîtrise de soi, en fait. Maîtriser son cheval, c'est apprendre à se maîtriser soi-même.
Aussi, oui.
C'est un
bien
peu
sûr.
Ça, quoi.
Bien sûr.
Ouais. Écoute Saskia, tu as été vraiment très intéressante et on te remercie d'être venue. On va rappeler quand même que tu te trouves au Haras de Fontaine, Toussy direction de la Lande. On peut passer mais on prend un risque de passer à l'improviste parce que tu n'es pas toujours là. Donc c'est préférable de te prévenir. On peut te contacter par l'intermédiaire de ton site www.saskia, je dis le S moi parce que ce sera plus facile pour les gens, saskiacheval.com. Là on y trouvera un peu tout le descriptif un petit peu de ton Haras, de tout ce que tu y organises. Tu organises beaucoup de stages qui sont uniquement sur réservation. Donc le prochain, c'est au mois de juin. On rappelle les dates.
C'est le 2 et 3 juin. C'est le premier week-end de juin.
Et le thème, c'est ?
Sécurité et complicité avec les chevaux.
Voilà. Et ça dure combien de temps ?
C'est 2 jours.
Ça dure 2 jours. Il y a possibilité de faire appel à Saskia si vous avez un problème avec votre cheval. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est aussi, messieurs les chefs d'entreprise, si vous pensez que ça peut être très utile pour le développement et la... la santé de votre entreprise, de faire appel à Saskia pour apprendre à coacher votre personnel, mais déjà voir comment ça se passe devant un cheval, qui vous donnera peut-être la réponse. Je vous amène à contacter Saskia. Tu as un numéro de téléphone ?
06 75 14 48 72.